Chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h04, petit retard, léger retard pour l'équipe de Génération Sport, on s'en excuse, mais aujourd'hui un programme très très chargé, pas aussi chargé que le studio, puisque pour une fois ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé aussi peu nombreux dans le studio. Vous m'entendez, mais vous n'entendez pas Alex, ou du moins vous l'entendez pas pour l'instant puisqu'elle est à la régie. Comment ça va Alex?
Ça va très bien, effectivement chargé en chaleur plutôt, dans le chargé en chaleur dans le studio, puisqu'il fait Actuellement, sûrement, on dépasse les 40 degrés. Au bas mot.
Oui, au bas mot.
Et on n'est pas Marseillais.
Et on n'est pas Marseillais. Donc, on est tous les deux. On est tous les deux ce soir. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas retrouvé si peu dans le studio. On en profite pour passer le bonjour à Cédric et Yann qui nous écoutent certainement, et puis aussi à Faustin qui avait l'habitude de nous écouter, enfin de nous écouter même plus que ça, de participer avec nous à l'émission sur ces dernières semaines. On lui passe le bonjour. On sait qu'il travaille beaucoup en ce moment. C'est pour ça qu'il ne peut pas être là ce soir. Aujourd'hui, le programme, comme j'ai dit, il est assez chargé. Dans un premier temps, on va revenir sur les trophées des Générations d'Or qui ont été décernés la semaine dernière. Après, Alex nous parlera de sport local, puisque même si on est en été, même s'il y a beaucoup moins d'actu sportive, le sport continue, et surtout le sport autour d'Angers. Donc Alex nous parlera de ça. Et puis après, on abordera deux événements sportifs internationaux majeurs. On parlera du Tour de France qui est en cours actuellement, et d'ailleurs cette 10e étape nous a réservé de belles surprises. Et puis on va également parler de Wimbledon qui s'est achevé dimanche dernier. Là aussi on en parlera plus en détail. Oui Alex,
Oui, on a aussi plein d'autres actus qu'on va évidemment évoquer. On aura donc le retour de Teddy Riner à Budapest ce week-end, le Grand Prix de Formule 1. On dévoilera donc celui qui a gagné l'Euro de féminin qui a débuté la semaine passée avec une très bonne entame pour l'équipe de France. Et puis on parlera aussi des transferts au niveau du foot.
Voilà, donc un programme plutôt chargé, et je m'en vais tout de suite donc vous raconter comment s'est déroulée notre émission de la semaine dernière. Si vous n'étiez pas branché sur le 101.5 FM ou sur notre site internet www.radio-g.fr,
site qui a bugué d'ailleurs,
site qui n'a pas marché pendant l'émission, il faut le savoir. Donc peut-être que vous y étiez, mais bon bah vous n'avez rien pu entendre, et ça c'est pas notre faute, désolé. En tout cas, on va revenir sur les vainqueurs de ces trophées des Générations d'Or. Dans la première catégorie du meilleur espoir, c'est l'Angevin Mohamed Alicho, donc du SCO d'Angers, qui a récolté 33,6% des voix et qui donc est devenu le Génération d'Or du meilleur espoir de cette saison. Ensuite, nous avons parlé des meilleurs entraîneurs, et donc le meilleur entraîneur de cette saison, eh bien il s'agit de David Pilar, le coach des Loups d'Angers, qui a quand même récolté près de 40% des voix avec 39,3%. Ensuite, les Loups d'Angers ont une fois de plus gagné, cette fois-ci dans l'une des catégories les plus prestigieuses de ces Générations d'Or, puisqu'il s'agissait de la catégorie du meilleur club. Les Loups d'Angers raflent ce Génération d'Or une fois de plus avec 33,3%. Ensuite, prochaine et avant-dernière catégorie, c'était celle de la meilleure sportive féminine de l'année, et cette fois-ci c'est l'UFAB 49 qui a remporté ce trophée avec Alexis Peterson, avec un peu plus de 30%, 31,1% des voix. Et puis enfin, dernière catégorie, celle du meilleur sportif masculin de la saison, et c'est les Loups d'Angers qui ont une fois de plus remporté ce Génération d'Or avec le Portugais João Geraldo, qui a récolté 35,9% des points. Donc 3 Générations d'Or sur 5 sont revenus aux Loups d'Angers, ce qui fait un très très bon pourcentage de participation victoire quand même pour les pongistes.
Effectivement, 3 sur 3. C'est vrai que on peut peut-être débriefer donc ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était une bonne expérience avec de très bons retours, que ce soit avant, pendant et après l'émission. Voilà, Peterson notamment qui a réagi sur Instagram à sa victoire. Les Loups d'Angers aussi qui ont partagé les résultats du concours. Donc voilà, ça a été vraiment une belle expérience. Je ne sais pas ce que tu peux en dire, Max.
Oui, clairement. Bon, j'en profite pour remercier une fois de plus Fadi et Amandine qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission avec les voix pour récompenser pour annoncer du moins les vainqueurs. D'ailleurs, j'en profite, on ne l'a pas dit, mais si vous voulez réécouter cette émission, elle est disponible évidemment en podcast sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, onglet émission, onglet Génération Sport. Voilà, comme
parfait.
Ça, la pub
tout
est terminée. Mais oui, sinon, c'était une très très bonne expérience, et oui, très content d'avoir fait ça, puisque je pense que le sport angevin méritait méritait quelques trophées, même si ce n'était pas des gros gros trophées. Ouais, nous, ça nous a fait plaisir d'en décerner quelques-uns.
Parfait, on va partir du côté donc des actus locales, puisque des Angevines ont brillé à échelle nationale ce week-end, à commencer par les kayakistes Vanina Paoletti et Pauline Frélon au championnat de France à Vichy. Les deux pensionnaires de l'ESAC se sont imposés en duo K2 sur 500 mètres, une performance qui promet en vue des Jeux Olympiques de 2024. Individuellement, les Angevines ont également fait parler d'elles, et notamment Vanina Paoletti qui s'est imposée sur le 200 mètres en K1 et a terminé donc deuxième également sur le 500 mètres. Pour Pauline Frélon, les résultats sont plutôt encourageants, même si la lauréate 2021 de la Dalle en juin n'est pas parvenue à accrocher un podium. Elle termine deux fois quatrième en 200 mètres et 500 mètres, en passant pas loin d'une médaille de bronze sur 200 mètres notamment, à 34 millièmes près. Une autre Angevine a été sacrée championne de France ce week-end en gymnastique cette fois. Originaire d'Anjou, Caroline Éduy a conservé son titre de championne de France en concours général, elle qui avait déjà participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 à seulement 17 ans. La Française ira prochainement défendre ses chances au championnat d'Europe en août prochain. Et une autre info qui est tombée donc dans ce week-end, c'est l'officialisation de la qualification de l'UFAB en Eurocoupe, hein, donc Angers qui va retrouver l'Europe avec donc cette Eurocoupe que va disputer les joueuses de l'UFAB. Donc une très bonne nouvelle pour la saison qui arrive pour l'UFAB 49. Ça fera des matchs d'Europe à Jambon, ça fera plaisir pour cette nouvelle saison, cette deuxième en LFB. Et puis maintenant avec Max, on va parler un peu du mercato du SCO qui a pas mal bougé. On s'est fait la réflexion en antenne avant l'émission qu'on pouvait quasiment, même complètement, faire une équipe de titulaires qui est partie du SCO en fait cette année, avec notamment déjà deux départs dans les buts, Petkovic et Mandrea. En défense, Manso, Traoré et Thomas qui ont été souvent associés ensemble, tous les trois dans une défense à trois. Ensuite les Pistons avec Cabot qui avait fait une très bonne saison, qui est parti du côté de Lens, Pereira Lage qui est allé à Brest, qui a été lui était plutôt positionné à gauche cette saison. Au milieu de terrain, Mangani, hein, voilà le pilier du milieu de terrain depuis des années au SCO. On a également Fulgini, c'est officiel depuis aujourd'hui, il est arrivé du côté de Mayence, il a signé un contrat jusqu'en 2026. On a également les attaquants avec Mohamed Ali Chow, Stéphane Bauken et Casimir Ninga. Voilà. Donc Max, encore une fois, on est un petit peu pessimiste, hein, sur ce mercato en juin.
Oui, j'avais tiré la sonnette d'alarme il y a de ça deux semaines ou trois semaines. Et c'est vrai qu'après l'émission, Alex et Cédric me sont un peu tombés dessus en me disant « Max, t'es vachement alarmiste, vachement pessimiste ». Et c'est vrai que là, la liste que tu viens de donner, elle est pas du tout élogieuse, hein, pour le SCO qui se sépare de... Parmi les 11 joueurs que tu as cités, il y en a 10 qui faisaient partie intégrante de l'équipe, titulaire ou remplaçant, mais qui jouaient très souvent. Casimir Ninga, ça a été un peu moins le cas cette saison, mais en tout cas, tous les autres ont beaucoup joué. Et en plus de ça, donc déjà, tu vas perdre 10 joueurs importants, ce qui est énorme. Hein. J'ai pas souvenir d'un club qui lâche 10 de ses cadres d'un seul coup. Et le recrutement qui n'est pas en plus si fou que ça. Donc vraiment, qu'est-ce que le SCO va donner l'année prochaine en Ligue 1? La question se pose et ça risque d'être très dangereux, puisqu'on le rappelle, il y aura non pas deux mais quatre descentes en Ligue 2 à partir de la saison prochaine. Donc ça risque d'être chaud pour le SCO. On espère que, comme d'habitude, à chaque première partie de saison, ils vont nous surprendre positivement et ils vont faire des très bons résultats. On l'espère évidemment, mais ça part très mal.
Effectivement, on s'inquiète plus déjà de la qualité technique du groupe, mais aussi des cadres, de ceux qui vont respecter le maillot du SCO. On a fait appel du côté des recruteurs à des jeunes joueurs. Il y a des on avait donné les noms, je crois, la dernière fois. Mais en gros, il y a des jeunes joueurs. Il y en a deux qui viennent de Brighton, qui ont 21 et 22 ans, si je ne m'abuse. Pareil, un jeune joueur bosniaque qui vient de Bosnie, qui pareil a 22 ans. C'est assez compliqué. Il y a des retours de prêt qui se passent, qui sont compliqués à gérer, puisque c'est des joueurs qui entraient pas dans la rotation quand ils sont allés en prêt. Il y a Bobichon qui revient après 6 mois, je crois, du côté de la Ligue 2. On a El Melali qui apparemment n'est même plus dans le groupe à l'heure actuelle. Nous avons également Bernardoni qui revient au SCO, mais et je pense que le SCO va chercher à le revendre, surtout que il mise sur Yaya Fofana pour garder les buts. Et puis voilà, on a des jeunes joueurs, et puis voilà, comme on dit, on a des joueurs de prêt. Donc en fait, on a très peu de joueurs motivés à l'idée de construire quelque chose dans le club SCO. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui. En gros, voilà, on a des jeunes joueurs qui veulent juste un tremplin pour leur carrière. On a des joueurs qui sont restés sur une mauvaise expérience au SCO d'Angers. On a des joueurs voilà qui savent plus trop quoi faire, et puis surtout voilà ce manque de repères pour les autres joueurs, les cadres de l'équipe qui sont encore là. Je pense à Ben Taleb, je pense à Boufal, qui doivent se demander mais quels sont les joueurs que j'ai autour de moi. Après voilà, les transferts, tout ça c'est plutôt très tôt, donc ça permet d'avoir un équilibre qui peut être trouvé à la mi-août peut-être, avec des automatismes qui peuvent se mettre en place dès les matchs de préparation. Après, c'est vrai que ça reste compliqué en termes de qualité, on le répète, hein, qualité technique, qualité d'expérience également de la part de ces joueurs. Donc voilà, ça va être compliqué. Après, c'est à double tranchant, même si je pense que ça doit être... c'est quand même plus risqué le chemin qu'est en train de prendre le SCO. Après, sur les arguments que je te donnais quand tu disais ça il y a 2-3 semaines, c'est pas fini, même si donc, oui, des transferts ont été faits qui sont pas forcément convaincants, c'est pas fini. Après voilà, faut voir aussi le rachat, s'il se fait vite ou pas vite. On peut aussi avoir l'hypothèse d'un mercato hivernal qui serait peut-être plus qui serait plus en réaction au résultat du club, donc à voir dans les prochains jours, surtout dans les prochaines semaines, mais voilà. Il y a des motifs d'espoir, il y en a un peu, mais il y a plus des motifs effectivement de désespoir plutôt.
Oui, et justement dans cette stratégie de vouloir faire confiance aux jeunes, il y a Noah Fatar, donc de la réserve du SCO, qui a été prolongé il y a quelques semaines. Donc voilà, pourquoi pas potentiellement voir ce très jeune joueur entrer dans la rotation au SCO, comme a pu le faire Mohamed Ali Chou par exemple l'année dernière, oui. Ou d'autres très jeunes joueurs qui peuvent rentrer dans cette rotation dès cette saison.
Tu parles de Noah Fatar, il y a également Jean-Mathéo Baouya qui avait fait une très bonne saison chez les 8-17 et qui était pisté par plein de grands clubs en France et qui est finalement décidé de rester au SCO. Donc c'est des bonnes nouvelles. Après voilà, c'est toujours des jeunes joueurs, c'est le même problème. Et puis voilà, sinon il y a encore des autres joueurs, il y a Wanis Taibi qu'on a vu, Unai, je crois qu'il y a des rumeurs, alors c'est peut-être sûrement encore que des rumeurs, mais je crois que c'est Lille qui était dessus, mais je veux pas dire de bêtises,
oui, c'est possible, oui.
Mais Unai, c'est des jeunes joueurs pareil qui attirent les grosses écuries en Ligue 1 et en Europe. On avait aussi Zinedine Oukaled ça fait partie des joueurs qui ont eu quelques rotations les années précédentes, donc à voir pour la suite. C'est pas forcément effectivement tout rose actuellement SCO. Il faudra voir sur le terrain, bien sûr, ça c'est très important. Il faut savoir, pour être complet sur l'actualité SCO, ils ont gagné cette semaine contre Niort, club de Ligue 2, donc 2-1. Donc voilà pour ça.
Pour leur premier match de préparation.
Effectivement. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité locale. On va faire une pause musicale et puis on reviendra juste après pour parler de toutes les autres grosses actus, puisque l'été est chargé cette année. On va rendre hommage à un événement de France, de l'histoire de France, si je puis dire, qui s'est passé il y a 24 ans, jour pour jour. Malheureusement, nous n'en étions pas...
Et non.
À l'époque, puisque nous n'étions pas encore nés.
Exactement.
Donc voilà, il y a 24 ans, vous le savez peut-être, l'équipe de France a décroché son premier titre de championne du monde de football. Et donc voilà, on va réécouter la pause musicale avec ce hit. Et en 2018, nous avons droit à VG Dream et son magnifique Ramener la Coupe à la Maison. Et en 98, vous aviez le droit à Gloria Gaynor et à Will Survive. Donc on va s'écouter ça tout de suite et puis on revient juste après. I should have changed that stupid De retour dans Génération Sport pour la suite de votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr. Donc Gloria Gaynor, évidemment, donc les 24 ans de ce sacre magnifique de l'équipe de France. On aurait aimé y être, même si 2018 était tout aussi beau, Max.
Oui, est-ce qu'en deuxième pause musicale, on aura le droit à VG Dream, justement?
Ça, c'est pas encore les... Attends, c'était le 15 juillet, on pourra mettre.
Ouais, on peut fêter l'anniversaire également. Hein,
on peut, voilà. 15 juillet, ça fera 4 ans, putain. 4 ans, ça passe vite.
Ouais. On était déjà là.
Par contre, on était là.
Dans ce studio.
Et on l'a commenté. Ouais. Putain, c'était beau. donc voilà, on enchaîne tout de suite avec l'actualité tennistique, qui a eu un gros événement, évidemment, les deux dernières semaines, avec Wimbledon, hein, ce troisième titre du Grand Chelem de l'année. Et là, c'est donc Djokovic qui s'est imposé chez les hommes et Rybakina qui s'est imposé chez les femmes. On va peut-être un peu développer, notamment, la partie homme pour l'instant, et puis après, on fera évidemment la partie femme. Djokovic qui a eu un parcours assez compliqué, il a perdu pas moins de alors que je compte, mais en gros voilà, il a perdu au moins 6-7-7 dans tout le tournoi. Alors c'est vrai que Djokovic, on est habitué à le voir écraser un peu tous les grands chelems qui gagnent, mais là ça a été un peu plus compliqué, notamment je pense au quart de finale où il perd notamment les deux premiers sets contre Yannick Sinner, l'italien, et voilà, donc après avoir perdu les deux premiers sets, il part au vestiaire et miraculeusement, il remporte le match. En tout cas, voilà, pareil contre Nori, il perd le premier set, et pareil contre Kyrgios, il perd le premier set avant de finalement remporter. Toi, Max, alors je sais pas si on en a parlé la semaine dernière, mais il y avait un match qui t'avait marqué, tu m'en avais parlé, c'était le match Kyrgios-Tsitsipas, notamment, qui avait fait parler lui, parce que bon, les deux joueurs se détestent beaucoup, et puis ils s'étaient un peu rendu les coups sur le terrain, et surtout Kyrgios au final a montré qu'il avait un gros potentiel.
Ouais, c'était le 8e de finale donc de Wimbledon entre deux Grecs. Kyrgios n'est pas officiellement grec mais il a des origines grecques, et donc Tsitsipas, et c'était un super match de tennis. En termes de jeu, c'était exceptionnel, vraiment on avait deux sportifs de très très haut niveau qui se rendaient coup sur coup sur le court, mais deux personnes aussi qui ne s'aiment pas beaucoup, comme tu l'as dit, et il y a eu des moments où par exemple, il y a Tsitsipas qui montait au filet. Sa seule préoccupation, c'était pas de gagner le point, c'était de fusiller au premier degré Kyrgios. Et il l'a touché une fois, hein. Il lui a mis un sacré smash dans le corps. Donc voilà, Tsitsipas qui, par colère, a balancé une balle, donc a tapé une balle dans le public. Ouais. Il aurait dû être disqualifié pour ça, ce qui a énervé Kyrgios. Puis évidemment, Kyrgios, à chaque match, il s'énerve contre son propre clan, contre le clan adverse, contre les supporters, contre les arbitres. Il se moque des arbitres, il se moque de tout le monde. Donc, c'est son personnage, c'est un showman, voilà. Mmh. Et ça a beaucoup déconcentré Tsitsipas qui a jeté les serviettes de Kyrgios par terre. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements, mais ça restait un super, super match.
Ouais.
Et au final, donc, c'est Kyrgios qui l'a emporté. Et donc, Kyrgios qui s'en est allé jusqu'en finale, première finale de Grand Chelem pour lui. Il est première demi-finale aussi de Grand Chelem.
C'était assez exceptionnel pour lui.
Ouais, et donc
surtout, je crois qu'il aime bien Wimbledon de base. Je crois que c'est un joueur qui aime beaucoup Wimbledon. Même si c'est vrai que il est australien, donc non, on pourrait dire l'Open d'Australie, mais Wimbledon, il aime beaucoup.
Ouais, et en tout cas cette finale qui était aussi très intéressante dans un profil totalement différent du match de la huitième de finale, c'est-à-dire qu'on avait deux monstres au service, vraiment. J'ai plus la stat sous le nez, mais Kyrgios a mis 27 ou 30 aces dans le match, ouais. Donc c'est exceptionnel et Joko a dû en mettre une petite quinzaine. Donc voilà, les jeux, ils prenaient tous les deux leurs jeux de service quasiment systématiquement. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas énormément de très très longs échanges, mais en tout cas voilà, il y avait du spectacle, il y avait du jeu et ça c'était beau. Et au final, c'est Joko qui l'a emporté parce que voilà, meilleur sur le match. Et voilà, c'est mérité pour Joko, même si j'aurais bien aimé que Kyrgios aille jusqu'au bout de ce tournoi, de ce grand chelem, parce que je pense que il aurait mérité, mine de rien, de rajouter une ligne à son palmarès.
Kyrgios qui a bénéficié quand même du forfait de Nadal en demi-finale. Donc voilà, ça a été un tremplin pour lui. Quand on gagne direct le quart, on se retrouve en finale, ça fait un grand pas. Par rapport à justement Nadal, qui avait gagné les deux premiers grands chelems, qui était toujours en course pour un grand chelem calendaire, donc quand on gagne les quatre grands chelems dans la même année. Là, donc, il a été plutôt bon tout le long du tournoi, plutôt correct, et puis voilà, c'est là, encore une fois, des problèmes au niveau des blessures. Là, c'était pas la cheville, c'était au niveau des abdominaux. Ouais, au niveau des abdominaux. On est sur une lésion de je crois, de 7 mm sur les abdominaux, et donc voilà, forcément, ça l'a aidé.
Il était déjà... Ça l'a pas aidé.
Non, ça l'a pas aidé, mais pardon. Et du coup, c'est surtout en quart de finale où c'est arrivé. Et il a quand même fini le match, gagné le match. Et donc, à quel prix, effectivement, bah, il a déclaré forfait juste après. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Nadal. Donc, je sais que t'aimes bien l'espagnol.
Ah ouais? Je le répète.
Pas les
si
espagnols.
Que ça. Ah, pas les espagnols. Pas les celui-là.
Non, ouais, c'est que lui. L'espagnol en général, non, mais en tout cas, celui-là, tu l'aimes bien. Mais bref, non, c'est vrai que bizarre. Moi, je trouve ça dommage un peu pour Nadal parce que vraiment, il était sur une grosse saison. Après, je pense que c'est le corps qui parle, évidemment. Donc voilà. Donc, Joko, qui revient à 21 grands chelems, donc à 1 de Nadal, qui est à 22, et Federer qui reste à 20. Federer qui avait dit, notamment dans la quinzaine, qu'il voulait revenir évidemment à Wimbledon. Lors d'un événement où il y avait eu toutes les légendes du tennis.
Et justement, tu fais bien de parler de Federer, puisqu'il y a aussi une actu qui le concerne, pas en bien, ni en vraiment, vraiment mal, hein, on vous rassure. Mais donc, c'est Roger Federer et Serena Williams qui, depuis 2000 ou 2002, je sais plus, ne sont officiellement plus classés, aussi bien en ATP qu'en WTA, donc pour Serena Williams, pour classé, durée d'accord. De trop longue absence.
Logique.
Donc voilà, c'est quand même deux des plus gros tennisman de l'histoire de leur sport. Donc voilà, ils ont tous les deux pas annoncé leur retraite, même si on s'en rapproche depuis quand même quelques années pour Federer de plus en plus. Donc voilà, je sais pas s'il a annoncé sa participation pour l'US Open qui arrivera fin août début septembre.
Oui.
Je sais pas du tout. En tout cas, Djokovic ne risque de ne pas le faire l'US Open puisqu'on le rappelle, les États-Unis souhaitent
toujours
un schéma vaccinal complet pour.
Toujours.
Ouais, c'est toujours en vigueur. Et donc Djokovic pour l'instant ne participerait pas à l'US Open. Voilà, la renaissance d'une polémique qu'on croyait enfouie. Donc voilà, les États-Unis qui, contrairement à Roland Garros, à Wimbledon ou Roland Garros par exemple, veut absolument un schéma vaccinal complet.
Et la transition est un peu trouée parce que donc il y a cette histoire de vaccin, mais aussi la guerre en Ukraine qui a des conséquences directes sur le circuit ATP, notamment les grands chelems. À Roland Garros, les Russes et les Biélorusses avaient le droit de venir jouer. Pas à Wimbledon. C'était une décision qui a fait un petit peu les polémiques forcément pour certains Russes, notamment à Medvedev. On sait qu'il y a pas mal de très bons Russes chez les femmes et chez les hommes qui sont très bien classés. Et surtout, voilà, alors j'ai envie de dire, moi j'ai trouvé ça un petit peu ironique et paradoxal, c'est que Rybakina, donc, qui a gagné chez les dames, est une Kazakh qui est née à Moscou.
Ouais, et ça crée donc, justement la polémique, elle s'en prend plein la figure justement sur, regardez, c'est un produit russe, c'est une russe et pourtant elle a le droit de participer. Donc c'est vrai que.
Bon, c'est ça en fait, c'est que je pense qu'il arrive. Enfin, la décision est un petit peu, je dirais pas absurde, mais voilà, c'est pas.
En fait, techniquement, si tu exclus les Ukrainiens les Russes, elle n'est pas russe. Elle est née là-bas, mais elle n'est pas russe. Donc elle a le droit de participer. Après, je peux comprendre qu'il soit en choc certains, mais bon. Voilà, faut essayer de passer outre cette décision. De toute façon, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc voilà.
Donc voilà. Et du coup, voilà, on va transitionner avec le tableau féminin. Tableau féminin où les Françaises ont longtemps espéré.
On y a cru.
Ouais, on y a cru. On a eu 3 Françaises en 8e, ce qui était vraiment pas mal. On a eu Harmonie Tan, Alizé Corneille, Caroline Garcia. Les 3 ont été éliminées, en l'espace de 2 jours. C'est assez dommage parce que, ouais, voilà, on a eu Harmonie Tan qui a fait un très bon tournoi, qui a battu Serena Williams. Donc, au premier tour, c'était un gros rematch. Alizé Corneille qui était plutôt pareil. Qui reste sur un bon Roland. Caroline Garcia qui avait gagné un tournoi, je crois, la semaine d'avant ou il y a 2 semaines, et qui, voilà, était en forme aussi. Et donc, voilà, on se retrouve avec finalement aucune Française en quart de finale. C'est assez dommage pour les Françaises.
Alizé Cornet qui avait éliminé Iga Świątek aussi, numéro 1.
Oui, c'était à Roland Garros.
Bon, c'est possible, oh, je me mélange alors.
Ah non, t'as raison.
Bah oui, j'étais quasiment sûr de moi, mais tu m'as mis un peu de doute.
C'était au deuxième tour ou au troisième tour,
Troisième tour, je dirais.
Ouais. Troisième tour, et ouais, grosse performance.
Grosse perf.
Et donc, pour les Français, par contre, ça s'est aussi mal passé. Pas de Français en huitième, je crois.
Ouais, ça doit être Gasquet, peut-être, qui a le plus loin.
Il y a eu des très bons résultats au premier tour,
ouais,
avec, je crois, qu'un seul éliminé. Qui était Benoît Paire qui avait perdu contre un Français.
Bizarre.
Mais en tout cas, le deuxième et le troisième ont été très durs pour les Français qui ont été éliminés. Ça commence à faire long tout ça.
Ouais, mais après, bon, voilà, même si sur le tableau masculin, on n'a toujours pas de Français qui arrivent à nous faire espérer. Au moins là, on a 3 femmes qui ont, ouais, fait un super tennis et qui ont perdu toutes les 3 en huitième. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait. On aurait vraiment pu en avoir une en quart, voire en demi, voilà. Mais au, ouais, moins, on a vu 3 belles performances françaises. Oui. Donc, ça, c'est à souligner.
Et surtout,
voilà, ça peut être intéressant pour la suite.
Ouais. C'est des joueuses qui sont pas en fin de parcours. Alizé Cornet peut-être, mais par contre, Harmonie Tan, on a vu à Roland Diem Paris, Léolia Jean-Jean, Clara Burel. Bon, elle a pas encore fait de gros parcours comme celle-là, mais c'est une tenniswoman d'avenir. Et donc voilà, on espère que on va pouvoir voir justement les Françaises sur le premier plan. Je pense pas tout de suite, mais dans plusieurs années.
En tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est plus prometteur sur le tableau féminin que chez les hommes.
Complètement. Même s'il y a 2-3 bons jeunes joueurs, ouais, après, ça va, à mon avis, pas aller au-delà de la 30e place ou de la 20e place au classement ATP.
Après, il y a Hugo Gaston, par exemple, très très jeune, hein, qui peut surprendre tout le monde et puis qui peut devenir une pointure de l'équipe de France de tennis. Donc, à voir dans les années à venir. Mais oui, c'est vrai que si on part du postulat aujourd'hui, ça paraît assez loin quand même.
On peut parler également, donc, dans le tableau féminin, d'une grosse performance qui a été faite. On parlait du finaliste Kyrgios, qui était un beau finaliste. Et on a eu aussi une très belle finaliste, Ons Jabeur, donc la Tunisienne, dans le tableau féminin. C'est la première joueuse tunisienne à atteindre une finale de Grand Chelem. Si elle avait gagné, je crois que ça en aurait fait la première joueuse africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem.
Certainement.
Mais en tout cas, voilà, c'était une grosse performance. Elle a eu beaucoup de monde derrière elle. Et puis voilà, c'est aussi pas une jeune joueuse, mais en tout cas, je crois qu'elle doit être 27 ans. Donc elle a encore un peu d'années devant elle pour peut-être justement aller chercher un Grand Chelem un jour. Et donc voilà. On a tout dit sur le tennis.
Ouais, à noter aussi que paradoxalement, donc Djokovic qui a gagné Wimbledon a dégringolé à la 7e place au classement ATP. Voilà, c'est assez bizarre, mais faut savoir qu'il n'y a pas que les grands chelems qui comptent, il y a tout le circuit ATP qui est à côté. Tous les tournois, les futurs, comme on appelle ça, au-delà des grands chelems qui comptent bien plus que. Je ne sais même pas si les grands chelems font partie des tournois ATP.
Ah, si.
En tout cas,
tu gagnes des points. Si
tu gagnes des points, mais voilà, sur une saison complète en dehors du grand chelem, tu as beaucoup plus de points à gagner que sur un grand chelem.
On va enchaîner tout de suite avec. L'autre actualité de ce début de mois de juillet, c'est le Tour de France, évidemment. Les cyclistes qui arpentent les rues de notre beau pays pour remporter le maillot jaune et terminer sur les Champs-Élysées. On savait que le favori était le double tenant du titre, Tadej Pogacar, et actuellement il est toujours, enfin il est toujours maillot jaune, oui il est maillot jaune déjà, il était au bout de je crois de 4-5 étapes, il était déjà maillot jaune Tadej Pogacar, qui dispose de 11 secondes d'avance sur Kamna qui est deuxième et donc qui a fait aujourd'hui une très grosse étape, hein. Il avait fait partie de l'échappée qui avait à peu près entre 8 et 9 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune, et malheureusement ça s'est joué à 11 secondes près pour que Kamna dépasse Pogacar au général finalement, donc c'est le Slovène qui conserve son maillot jaune. Sur le podium on retrouve le Danois de la Jumbo-Visma Vingegaard, et puis après on retrouve les deux Anglais de Ineos Grenadier, Geraint Thomas et Adam Yates, suivent deux Français, David Gaudu de la Groupama FDJ et Romain Bardet de la team DSM. Donc voilà pour le classement général. L'étape du jour a été remportée par le Danois Emil Kort Nielsen, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom. En tout cas c'est un Danois qui a porté à de nombreuses reprises donc depuis le début du tour le maillot à poids, et qui surtout a été le dynamiteur de ce début de Tour de France avec plusieurs échappées. Il en a raté très peu, il a été beaucoup d'échappées, et aujourd'hui première victoire pour lui sur ce Tour de France 2022. Il avait déjà gagné en 2018, et là voilà, il réalise donc la belle performance de s'imposer, lui qui avait donc évolué à domicile lors des étapes qui s'étaient déroulées au Danemark. Voilà pour le Tour de France. Les Français qui donc sont en embuscade avec David Gaudu et Romain Bardet. Le général, je pense qu'ils ne ils vont pas trop le jouer. Je pense que ça va plutôt se jouer sur des victoires d'étape. C'est des grimpeurs, hein, mais voilà, je pense que tout va se jouer sur des étapes de montagne. À noter que demain, justement, grosse étape de montagne qui va être sûrement décisive pour le reste du tour. Et pareil, après-demain.
Oui, justement, tu fais bien de parler des montagnes, puisqu'aujourd'hui, donc, en cette dixième étape, c'était la première étape dans les Alpes. Donc, c'était entre Morzine et Megève. Donc, on a parlé Pogacar qui perd un peu d'avance au général. Ben voilà, avec 11 secondes d'avance toujours sur le second. Il y a eu un événement, il y a même deux petits événements extra-sportifs liés au Tour de France qui font débat ces derniers jours, dont aujourd'hui, car à un peu moins de 40 km donc, de cette arrivée, une manifestation a lieu sur le Tour de France, donc une dizaine de personnes, quinzaine de personnes ont fait une manifestation écologique, il me semble.
Ouais, c'est ça, c'est pour la cause écologiste.
Voilà, pour la cause écologiste, pardon. Et donc, la course a été neutralisée pendant, alors je n'ai pas exactement...
15 minutes, je crois.
Voilà, une quinzaine de minutes. Donc voilà, événement important quand même, la course a été obligée d'être neutralisée. Et puis, autre chose qui fait parler pendant ce Tour de France, c'est le Covid.
Bien sûr.
Covid-19. On pense notamment à Pogacar, hein, de l'équipe Team Emirates, si je ne me trompe pas. Donc, il a vu deux joueurs, deux cyclistes de son équipe déclarer forfait à cause du Covid. Voilà, on espère que ça ne va pas empêcher tous les cyclistes à concourir. Et moi, je me suis rappelé, justement, on en avait parlé un petit peu, on avait un petit peu parlé de ça par rapport à Roland-Garros, où justement, ouais, il y avait eu des cas de Covid, et les tennismans et les tenniswomen ont continué de jouer. Ouais. Là, pour le coup, le Tour de France, c'est catégorique, c'est cas positif, c'est dehors.
Alors, cas positif avec symptômes seulement.
Ok.
Il me semble que c'est ça la règle. Cas positif avec symptômes, on ne participe pas. Cas positif sans symptômes, j'imagine qu'ils doivent participer.
Il doit y avoir
des règles.
Il doit y avoir de nombreux tests qui suivent.
Oui, bien sûr.
Un test positif. Mais en tout cas, voilà, le Covid n'est pas fini.
Déjà,
il revient bien en France.
Il y a plusieurs cas. Mais il n'y a pas d'épidémie. Il n'y a pas de.
Non, pour l'instant, il n'y a pas de cluster. Bah, c'est pour
cluster,
ça qu'il.
Voilà, ça.
C'est pour ça que dès qu'il y a un risque, voilà, malheureusement, ils sont obligés de faire abandonner le coureur, parce que, voilà, tu vois, un coureur dans une équipe qui a le Covid, qui le refile à toute son équipe, derrière.
C'est assez encadré en dehors de la course. Quand on revient, on voit les interviews qui sont faites avec le masque, etc. Mais effectivement, bon, quand on est dans un peloton, on est très serré. Enfin voilà, on n'a pas le masque.
Et puis même au-delà de la course, quand tu rentres, que t'es dans le bus avec les gens de ton équipe, que t'es quand tu es dans le même logement que les gens de ton équipe, bah voilà, forcément que ça peut arriver facilement un cluster.
Ouais.
Donc, voilà, pour moi, c'est une bonne décision que les organisateurs de Roland-Garros, pour moi, auraient dû suivre. Mais ça, c'est un autre débat.
C'est un autre débat. Max, je te propose de marquer la deuxième pause musicale, puis après, on reviendra pour parler de transfert, de football avec l'Euro féminin et on parlera un tout petit peu de judo pour faire plaisir à Yann qui nous écoute. On va passer donc à la pause musicale. On célébrait les 24 ans de la victoire en Coupe du Monde. Là, on est 20 ans plus tard, donc en 2018, avec la victoire des Bleus, donc en Russie, pour la deuxième étoile, la fameuse. Là, on va s'écouter donc l'autre son qui a marqué les célébrations après ce titre, avec donc VG Dream et son titre Ramener la Coupe à la maison. Ça fait longtemps peut-être que vous ne l'avez pas entendu, donc on va vous le remettre dans les oreilles. C'est parti. Ensemble. Donc voilà, c'est des belles paroles de VG Dream.
L'occasion ne se rappelle qu'Adil Rami est champion du monde de football et sans disputer la moindre seconde. Donc ça, c'est assez fou.
Mais on a également Nzonzi, Areola, qu'on peut citer parmi ceux qui, dont on n'aurait pas
puis
dit.
On s'arrêtera là.
On s'arrêtera là, effectivement. En tout cas, voilà. S'il y a Dra, on peut appeler Benjamin Mendy. Plus maintenant.
Malheureusement, il est incarcéré.
Il est incarcéré pour viol. Donc on l'appellera pas, du coup.
Et on ne parlera plus de lui, surtout.
Oui, voilà, on va éviter
Il va tomber dans l'oubli. Mérité.
Bien mérité pour lui. On a enchaîné avec des actus un petit peu plus gays, avec notamment le judo et donc voilà Teddy Riner qui faisait son grand retour. C'est vraiment un événement dans le monde du judo puisque voilà il n'avait pas disputé de match officiel depuis les JO de Tokyo où il avait terminé troisième dans la catégorie des plus de 100 kilos et premier par équipe mixte. Donc voilà il n'a pas manqué son retour sur la scène internationale en remportant le grand chelem de Hongrie à Budapest, journée plutôt maîtrisée avec 4 combats et 4 victoires, donc voilà, totale maîtrise également en finale, donc voilà c'était une très bonne rentrée hein, pour le français qui prépare évidemment les JO 2024 sereinement. Je crois qu'il y a quelques mois il avait re-signé au PSG judo, donc voilà il avait prolongé dans la filière judo du PSG voilà, il a pu notamment battre Yela Snipe, 23 ans, donc en finale. Il a également battu Raphaël Silva, qui a été médaillé bronze en 2012 et 2016 au JO. Et donc voilà, ça a été vraiment un très bon tournoi pour lui, très rassurant surtout vis-à-vis de sa forme, et ça a dû rassurer tous les fans de judo français. On va parler maintenant un peu d'euro féminin, qui a disputé la semaine dernière, avec donc l'équipe de France qui elle a débuté en dernière avec le match contre l'adversaire, m'échappe, contre l'Italie, donc une victoire facile 5-1. Voilà pour le premier match des Bleus, qui est évidemment pareil, très rassurant. On sait que l'équipe de France a eu peu de réussite sur les phases sur les phases finales de grandes compétitions, je vais y arriver, mais qui est plus simple, qui arrive plus facilement sur les matchs amicaux. Donc là ça va être une vraie échéance, l'Euro féminin, avec donc cette première victoire, ce triplé de Guerrero, donc la milieu de terrain. On a un but de Katoto et un but de Cascarino, donc voilà c'est je pense sous les meilleurs auspices, surtout que la première mi-temps était déjà gagnée 5-0 et donc la deuxième c'est un peu moins bien passé avec un but encaissé, mais en tout cas voilà c'est un bon début. Elles affronteront les Belges. Max, est-ce que tu as la date?
Oui, ce sera jeudi. C'est ce jeudi, voilà, 21h. Et donc, en cas de victoire, l'équipe de France serait directement qualifiée pour les quarts de finale, c'est il ça. Me semble, de la compétition.
Les quarts de
parce
finale.
Qu'il n'y a pas de huitième.
Et l'autre match sera contre l'Islande, je crois.
Oui, c'est ça.
Contre l'Islande.
Exactement.
Et donc, voilà.
Et donc, la date, ce sera donc Islande-France et ce sera lundi prochain, donc le 18 juillet à 21h également.
Sur les autres matchs de la compétition, on peut signaler que le pays hôte, l'Angleterre, a remporté ses deux premiers matchs et d'ores et déjà qualifié après sa victoire hier 8-0 contre la Norvège. Hein, la Norvège qui, notamment dans son équipe, Ada Garberg, hein, la première Ballon d'Or de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, l'Euro féminin qui débute très bien pour les Anglaises qui jouent à domicile, oui Max.
Et on l'a pas signalé, mais dans le match qui opposait donc la Belgique à l'Islande dans le groupe de l'équipe de France, il y avait eu un partout.
Donc voilà.
Donc ce qui rajoute un peu plus de marge à l'équipe de France pour finir première de leur groupe.
Effectivement, sur les autres résultats, l'Allemagne et l'Espagne dans le même groupe ont réussi leur entrée en matière. Pour le groupe C, on a eu deux matchs nuls, donc voilà, de 4 équipes dos à dos avec la Suisse, le Portugal, la Suède et les Pays-Bas. Donc voilà, il y a quelques matchs serrés, il y a quelques matchs effectivement avec beaucoup d'écarts de niveau, mais voilà, ça devrait avoir des phases finales plutôt intéressantes dans la suite du tournoi.
Et aujourd'hui, il y avait deux matchs qui étaient programmés, Danemark-Finlande, les Danoises l'ont emporté 1-0, et puis ce soir, 21h, un gros match entre l'Allemagne et l'Espagne. Donc voilà, un beau programme à 21h, donc dans un peu plus de 10 minutes. Est-ce que c'est rediffusé en France ce match-là? Je ne suis pas persuadé. Tous les matchs de l'équipe de France doivent être rediffusés.
Ils sont sur Canal+, pour ceux qui ont le câble.
Tous les matchs de la compétition?
Voilà, sur Canal+, et puis sur les antennes du groupe Canal, et puis sinon il y a des matchs quand même qui sont en clair, que ce soit sur TMC, TFX et TF1. Donc voilà, si jamais vous voulez suivre 7 euros, rendez-vous sur ces chaînes-là. Donc voilà, on a aussi une info qui concerne la Formule 1, qui a eu un nouveau Grand Prix ce week-end. Cédric aurait été là, il nous aurait dit que ça avait été ennuyeux, mais effectivement, ça a eu pas forcément de grosses infos à retenir, si ce n'est donc le gros succès de Charles Leclerc qui lui permet donc de revenir déjà au classement des pilotes sur Max Verstappen. Lui qui cherchait donc un succès depuis 3 mois. Il avait gagné 2 des 3 premiers et puis là voilà, il a gagné le 11e Grand Prix avec cette belle victoire. Donc c'était en Autriche sur le circuit de Spielberg. Donc voilà, une belle victoire pour Charles Leclerc qui a terminé donc premier devant Max Verstappen et Lewis Hamilton, les deux derniers champions du monde en titre. Voilà pour la F1. On peut peut-être donner le classement général, donc avec Verstappen premier devant Leclerc, ensuite suit Perez et Sainz, ensuite les deux Mercedes, Russell et Hamilton, sixième. Voilà pour la F1. On va enchaîner de suite avec les transferts. On parlera un peu, si on a le temps, Max, des transferts foot. Je vais te demander peut-être ceux qui t'ont marqué le plus depuis le début du mercato. Moi, je vais vous parler des transferts marquants pour certains cadres des équipes de France. On va parler des équipes de France de football masculine, féminine. Pareil pour le basket et le handball. On commence tout de suite avec donc le football. Les deux leaders des équipes de France évoluent au PSG, mais ils ont bien failli le quitter cet été. Marie-Antoinette Katoto et Kylian Mbappé ont pris le pari de prolonger avec le club de la capitale après de nombreuses émulations autour de leur prolongation de contrat. Les deux Parisiens, toujours en quête d'un titre européen, ont fait le choix de rester en France pour le plus grand bonheur de leurs supporters. Les deux joueurs comptent bel et bien disputer les Jeux Olympiques sous le maillot du PSG. Un autre transfert pour l'équipe de France de football masculine avec un cadre des Bleus qui a changé de club donc cette année, c'est Paul Pogba qui a signé à la Juventus. Peut-être que Max, tu pourras en parler juste après. On va enchaîner avec le basket. Les cadres de l'équipe de France masculine qui a réussi à gagner une médaille d'argent à Tokyo, notamment en 2021, eux, ils ont plutôt la bougeotte avec notamment Nando De Colo qui a fait son retour en France à l'ASVEL, l'ambitieux champion de France qui compte jouer les playoffs d'Euroleague l'année prochaine. Un autre joueur lyonnais fait plutôt le chemin inverse, c'est le géant Victor Wembanyama qui poursuivra sa progression du côté de Boulogne-Levallois avant de tenter sa chance à la prochaine draft NBA. Mais le plus gros transfert du côté du basket français ne se passe pas en France, mais bien aux États-Unis avec le transfert du Rudy Gobert au Minnesota Timberwolves. Un nouveau défi pour l'ancien pivot de Cholet Basket qui avait du mal à aller loin en playoff, notamment avec son équipe de l'Utah Jazz. En balle, on se retourne encore une fois du côté du PSG pour cette fois-ci des grands changements opérés à l'intersaison. Mikkel Hansen est parti au Danemark, mais surtout un autre homme fort de la base arrière parisienne s'en est allé en Pologne cette fois-ci. Nedim Remeli a en effet rejoint ses compatriotes Dylan Nay et Nicolas Tourna à Kielce, une équipe qui sera donc à surveiller pour prendre le pouls un peu de l'équipe de France masculine. Chez les féminines, la retraite des joueuses cadres comme Amandine Leno par exemple va un peu chambouler l'effectif, et côté mercato ça s'agite également avec Grace Zahadi, la capitaine des Bleus, qui quitte officiellement Rostov pour rallier Bucarest. La demi-centre était prêté cette saison à Metz pour la fin de saison après la disqualification des équipes russes en Champions League. Un retour plutôt gagnant qui aurait pu laisser entrevoir la perspective d'un retour en France plus durable, mais il n'en est rien. Zahadi fera parler de son talent en Roumanie. En volleyball également, ça peut être intéressant puisque les Bleus sont champions olympiques en titre. Ça pourrait aussi donc se bousculer avec plusieurs joueurs qui évoluent en Russie, notamment le receveur titulaire Yenia Gebrenikov qui a mis une croix sur la Ligue des Nations, notamment avec les Bleus, et qui évolue du côté de Kazan. Et donc voilà, peut-être qu'il y avait eu des rumeurs de son retour soit en France, soit en Italie, à Modène. Voilà pour tout ce qu'on peut dire sur les transferts. Il y a pas mal de grands sportifs français en fait qui changent totalement d'horizon, et c'est assez intéressant de voir ça cet été. Max, on va parler maintenant un peu de football. On va dire que c'est ton domaine de prédilection. Et un joueur que tu apprécies ou que tu appréciais particulièrement, c'est Paul Pogba, qui a fait son retour à la Juventus de Turin. Qu'est-ce que tu penses de ce transfert ?
En tout cas, déjà, il faut signaler que c'est en vue de la Coupe du Monde qui arrivera en novembre-décembre. Donc voilà, les joueurs en manque de temps de jeu ou qui ne se sentent pas forcément très à l'aise dans leur club vont essayer de trouver une porte de sortie. Et en l'occurrence, Pogba, donc, lui, a signé pour un transfert libre en fin de contrat donc dans un de ses clubs de cœur, donc à la Juve, qu'il avait quitté en 2015, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, 2015.
Donc voilà, ça doit faire quand même 7 ans qu'il est parti. Ce que j'en pense, c'est que je suis jamais très fan des gros retours dans les anciens clubs.
La preuve avec United, du coup.
Voilà, par exemple, pour moi, c'est un échec. Enfin, c'est avoué un espèce d'échec de carrière. Bon, évidemment, il y a deux circonstances atténuantes. Je pense à Cristiano qui revient à United. Là, c'est pas le même. C'est pas exactement le même contexte.
Oui, et puis ça reste des grands clubs.
Voilà, le truc qui est décevant avec Pogba, c'est que sur les 7 années qu'il passe à Manchester United, il y en a pas une qui est exceptionnelle.
Oui.
Voilà, et on n'a jamais retrouvé son niveau qu'il avait à la Juve. Donc, si c'est pour qu'il retrouve son niveau qu'il a à la Juve, ce sera extraordinaire. Voilà, malheureusement, ça fait 7 ans qu'en club, il n'est pas très très performant toute une saison. Ça risque d'être compliqué, surtout que il va dans une Juve qui est malade, qui sort d'une saison peu glorieuse. Et il y a des joueurs à racheter sur beaucoup de postes. Ils ont acheté Di Maria aussi, très bon recrutement. Mais voilà, donc ça va être le centre du projet.
Ouais.
Très content de le voir là-bas, très content de le voir quitter United. Après, est-ce que ça va marcher plus qu'ici ou ailleurs, honnêtement,
il faudra qu'il soit épargné par les blessures globalement pour la réussite de son transfert. Rapidement, parce qu'il est déjà 56, est-ce que tu as un autre transfert qui t'a marqué, qui va t'intéresser, que tu vas peut-être un joueur que tu vas suivre, ou une équipe qui fait un gros mercato depuis le début, ou
il y a Ekitike qui avait longtemps été annoncé du côté de Newcastle et finalement il serait plus proche du PSG que de Newcastle, donc à voir comment cette situation va évoluer. Mais voilà, très jeune espoir du foot français. Est-ce que ça sert à quelque chose qu'il aille au PSG? À mon avis, non, puisque il jouera pas, et je pense que ça fera comme un Nkunku, comme un Diaby. Il jouera des miettes et au final il partira dans quelques saisons pour une plus-value, certes, mais est-ce que pour sa carrière sportive, est-ce que ça sert à quelque chose qu'il aille au PSG? Je sais pas. Après, je pense que ce sera surtout un choix du cœur.
Très bien. Voilà pour cette émission de Génération Sport qui touche à sa fin. Il y a eu pas mal d'actu, Max, sur cette émission. Beaucoup d'actu sport. Max qui me fait un pouce en l'air. T'as apprécié l'émission, Max ?
Oui. En petit comité, ça faisait longtemps. On a l'impression de se retrouver en pleine pandémie où il y a 2 ans en arrière, oui, on revenait pour faire des émissions seulement à deux dans le studio. Bon, là, on n'a plus le masque, mais ça fait du bien de se retrouver à deux comme ça.
Bien sûr. Bon voilà, on va se quitter avec le générique. On va vous donner rendez-vous dans une semaine. Et puis voilà, on vous redira ce qui se passe durant l'été. Et puis voilà, surtout, on se retrouve à la rentrée avec de très belles émissions qui arrivent. On vous laisse avec Imaginaire tout de suite. Et puis surtout, la suite des programmes de Radio G. Bonne soirée à tous.
Bonsoir les imaginaires.
Bonsoir.
Pierre-Marie et Karine dans le studio de Radio G jusqu'à 22h. Et ouais, on continue cet été à vous présenter notre émission. On va enfin diffuser l'interview d'Émilie Kerbalek. C'est bien ça, ceux qui l'ont interviewé. C'était toi, oui. Pierre-Marie.
Exactement. Bah non, c'était tous les deux.
Ah ouais, ça remonte un petit peu. Hein, c'était les Utopiales.
Il y a presque un an.
Le temps passe. Alors, sur son site, elle précise qu'elle est déjà programmée aux prochaines Utopiales. Voilà. Et elle venait à l'époque faire la promotion de son premier roman qui était sorti. Enfin, c'était pas son premier roman, c'était le premier à sortir chez Albin Michel Imaginaire. Le titre.
Non.
C'est le savoir. Bravo. Et puis, ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai vu que le suivant, qui n'est pas la suite apparemment, si j'ai bien écouté l'interview,
effectivement,
sort le 31 août aussi chez le même éditeur.
Alors, le bon côté qu'avait ce livre, mais elle vous en parlera, c'est que
oui,
c'est de la science-fiction.
Enfin, l'émission.
C'est de la science-fiction, c'est une science-fiction très japonisante, puisqu'elle parle aussi de Satan Aftal, de la culture dans laquelle elle a baigné toute sa vie avant d'arriver en France. Et donc, ça permettait d'avoir. C'est pour ça qu'Albin Michel l'a édité, c'est que ça permettait d'avoir une science-fiction qui était assez éloignée des codes que nous avons l'habitude de voir, qui sont plutôt anglo-saxonnes, américaines.
Et
c'était une blague, mais
Karine aussi, tu vas nous
quitter les mondes d'automne.
Tu vas nous parler d'un roman sorti chez le même éditeur.
Oui, Afterland.
Quoi ? On n'a rien entendu.
Elle essaie une nouvelle technique pour parler à la radio.
Elle essaie de communiquer. Ouais, c'est raté.
Moins elle parle fort, moins on l'entend, et donc plus elle est contente.
Et toi, Pierre-Marie
Moi, j'ai aussi décidé de vous parler. Là, ce soir, on va faire une émission full SF, si j'ai bien vu. Et moi, c'est de la SF qui tâche, de la SF militaire. Ça va être OPEX de Laurent Jeunefort.
Ouais, non, pas Sébastien, parce que Sébastien, il a fait sa chronique. Bah, c'est toujours chez Albin Michel, une nouvelle série de livres dont vous êtes le héros pour les jeunes. Et on commence tout de suite avec un petit peu de musique. Un groupe qui sera au Motocultor Festival dans un mois. Bon, je vous en parlerai après. Le groupe s'appelle She Passed Away. We'll be right back. She Passed Away dans l'imaginaire sur le 100.5.
C'était un peu back to the 80s, non?
Mais
très Stranger Things.
Complètement, complètement. Alors, ils disent qu'ils font de la dark wave, mais ouais, ça, on peut appeler ça de. Oui, de, ça fait référence à la cold wave, au post-punk.
C'est et, disco.
Alors, un extrait de leur dernier album studio qui s'appelait Disco Anxiety.
D'accord.
Est-ce que vous avez reconnu la langue dans laquelle ils chantent?
Moi, je pense que c'est de l'islandais.
Turc.
Turc.
Ouais, c'est un duo dont un, je crois, vit en Grèce et l'autre en Espagne, mais ils sont tous les deux d'origine turque et ils chantent dans leur langue natale.
Ok.
Ce qui apporte un cachet un petit peu original quand même. Donc, c'était le morceau Renxis. On passe à la chronique de Karine.
Oui.
Allez, go.
Je vais vous présenter.
Ah bah attends, ton t'es générique là.
Non mais tu peux le passer le générique, y a pas de souci.
Donc, oui. Je vais vous présenter Afterland de Lauren Buck aux éditions Albin Michel Imaginaire. Afterland est un roman entre dystopie et thriller. Et pour une fois, ce ne sont pas les femmes qui sont victimes d'une société, ce sont les hommes. Et oui, messieurs, un virus vous a tous décimés.
Oh non.
Oh, chic, des vacances.
Enfin, presque. Car il reste quelques survivants, dont un jeune garçon nommé Miles. Son immunité le rend précieux, mais c'est aussi une souffrance. Dès le début du roman, on comprend qu'il a subi un nombre incalculable de tests pour découvrir l'origine de son immunité face à ce virus. Sa mère, Cole, a également subi des tests puisque le gouvernement américain pose l'hypothèse que cette immunité proviendrait du côté maternel. L'oppression est telle qu'ils vont devoir fuir ce laboratoire. En parallèle, la tante de Miles, prénommée Billy, a une idée malsaine, celle de profiter de la situation pour marchander le sperme de son neveu sur le marché noir. Oui, cette femme est ignoble et on la déteste très facilement. Cole va donc tout faire pour protéger son fils de sa propre sœur, déplaçant l'intrigue dans une course-poursuite effrénée. Cette intrigue est d'ailleurs bien ficelée, malgré l'alternance des points de vue. On suit Cole et son fils dans un chapitre, puis Billy dans un autre, et ainsi de suite. Cette narration polyphonique offre ainsi deux visions d'une même histoire. De même, les personnages sont très bien construits. Cole fait figure de femme forte et de mère, prête à tout, même à s'adonner au pire acte pour le bien de son enfant. Le jeune Miles est quant à lui doté d'une lucidité impressionnante. On observe au fil des pages son évolution et sa construction en tant que garçon sexualisé très jeune, car il n'a que 12 ans. Enfin, la tante Billy est une femme égoïste et ingrate. Le dégoût qu'elle provoque à la lecture est complètement réussi. Lauren Buck évoque dans Afterland de nombreuses problématiques. Premièrement, elle critique le racisme et la peur des étrangers dans la mentalité américaine à travers le métissage de Miles. Elle aborde également les enjeux d'une société matriarcale qui n'empêche aucunement la violence du patriarcat et les mêmes vices du gouvernement.